Troisième partie. Les loups. Chapitre 1. Secret. 1. Derrière la petite maison de Rosalita Munoz se trouvait un grand cabanon peint en bleu ciel qui servait de cabinet. Lorsque le pistolero y entra, le lendemain de la fin du récit du père Callahan, en fin de matinée, il y avait un anneau d'acier tout simple qui saillait du mur de gauche et sous lequel était fixé un disque métallique à une trentaine de centimètres. Et dans ce vase rachitique avait été glissé un brin double de Suzanne Coquin. Cette odeur citronnée et légèrement astringente était la seule dans le cabanon. Au-dessus du siège d'aisance, encadré et sous verre, trônait un portrait de l'homme Jésus, les mains croisées juste sous le menton, des boucles rousses lui recouvrant les épaules et le regard tourné en haut vers son père. Roland avait entendu dire que certaines tribus de lents mutants surnommaient le père de Jésus le grand bas du ciel. Le portrait était de profil, ce qui réjouit Roland. S'il avait été représenté complètement de face, il n'est pas certain que le pistolero aurait pu s'acquitter de son devoir matinal sans fermer les yeux, si pleine que fût sa vessie. « Drôle d'endroit pour mettre un portrait du Fils de Dieu, » pensa-t-il. Puis il se rendit compte qu'il n'y avait là rien d'étrange. Dans le cours normal des choses, seule Rosalita utilisait ce cabanon. Et l'homme Jésus n'avait d'autre spectacle que son dos. Tout à fait convenable. Roland Deskane éclata de rire, et l'eau de son corps se déversa. 2. Rosalita était déjà partie quand il s'était réveillé, et depuis un moment. Son côté du lit était froid. À présent, devant l'entrée de son grand cabanon bleu, en train de se reboutonner, Roland regardait le soleil. Il en conclut qu'il ne devait pas être loin de midi. Se livrer à ce genre d'estimation, sans l'aide ni d'une montre, ni d'un cadran, ni même d'un pendule, était devenu malaisé ces derniers jours. Mais cela restait possible, à condition de se montrer consciencieux dans ses calculs et de ne pas se formaliser d'un résultat approximatif. Cort aurait été horrifié de voir un de ses élèves reçus, un pistolero, commencer une tâche comme celle-là en se levant à midi, car ce n'était que le commencement. Tout le reste jusqu'ici n'avait été que rituel et préparatif, une phase nécessaire mais pas extrêmement utile. Maintenant, cette partie était terminée. Et pour ce qui était de se lever à des heures pareilles, personne n'avait autant mérité une grasse matinée que moi, se dit-il en descendant la pente. À cet endroit, une barrière marquait la limite du lepin de Callahan, ou peut-être le père le considérait-il comme le lepin de Dieu. Au-delà gazouillait un petit ruisseau, babillant comme une petite fille racontant des secrets à sa bonne amie. Les berges regorgeaient de Suzanne Coquin, ce qui résolut un autre petit mystère. Roland inspira les effluves à plein poumon. Il se prit à penser au cas, ce qu'il faisait rarement. Eddie, qui croyait que Roland ne pensait pas à grand-chose d'autre, aurait été ahuri. Sa seule vraie loi était « Tiens-toi en retrait et laisse-moi agir. » Pourquoi diable était-il si compliqué d'apprendre une règle aussi simple? Pourquoi avait-il toujours ce besoin d'interférer? Car c'est ce qu'ils avaient fait, chacun d'entre eux. Ils savaient tous que Susanna Dean était enceinte. Roland s'en était douté depuis le premier jour, quand Jake avait passé la porte dans ce manoir de Dutch Hill. Susanna elle-même l'avait su très vite, en dépit des chiffons ensanglantés qu'elle enterrait au bord du chemin. Alors pourquoi leur avait-il fallu si longtemps pour tenir cette palabre? Pourquoi en avait-il fait toute une histoire? Et quelles auraient pu en être les conséquences négatives? Aucune, espérait Roland. Mais c'était difficile à dire, pas vrai? Peut-être le mieux était-il de laisser faire. Ce matin, ça paraissait la meilleure chose à faire parce qu'il se sentait très en forme, physiquement du moins. À peine une petite douleur ou une... Je croyais que vous vouliez rentrer peu de temps après moi, pistolero, mais Rosalita dit que vous n'êtes venu vous coucher qu'à l'aube. Roland se détourna de la barrière et de ses pensées. Aujourd'hui, Callahan était vêtu d'un pantalon et de chaussures sombres, ainsi que d'une chemise sombre à col relevé. Sa croix pendait sur sa poitrine et sa folle chevelure blanche avait été en partie domptée, sans doute au moyen d'une graisse quelconque. Il soutint le regard du pistolero pendant quelques secondes, puis reprit. Hier, je suis allé donner la Sainte Communion à ceux des petites fermes qui la souhaitaient. Et j'ai entendu leur confession. Aujourd'hui, je me rends dans les ranchs. Bon nombre de cow-boys restent attachés à ce qu'ils appellent le chemin de croix. C'est Rosalita qui m'emmène dans le Bucali, alors vous allez devoir vous débrouiller seul pour le déjeuner et le dîner.
Nous nous en occuperons. Mais avez-vous quelques minutes pour parler ?
« Bien sûr, » répondit Callahan. « On ne devrait pas venir dire un mot si on n'a pas le temps d'en entendre plus. C'est un bon conseil, à mon avis, et il ne vaut pas que pour les prêtres. »«
Et ma confession à moi, vous voudriez bien l'entendre ?»
Callahan haussa les sourcils. « Vous croyez à l'homme Jésus, alors ?»
Roland secoua la tête. « Pas du tout. Mais l'entendrez-vous quand même et garderez-vous le secret ?»
Callahan haussa les épaules. « Pour ce qui est de garder le secret, c'est facile, nous le faisons toujours. Mais il ne faut pas confondre secret et absolution, » conseilla-t-il, en gratifiant Roland d'un sourire glacial. « Nous autres catholiques, nous nous réservons ça à nous-mêmes, ne vous déplaise. »
Le concept même d'absolution n'avait jamais effleuré Roland, et il trouva presque comique l'idée qu'il pût en avoir besoin, ou qu'un homme fût en mesure de la lui donner. Il se roula une cigarette en prenant tout son temps, se demandant comment commencer, mais où s'arrêter. Callahan attendait, gardant respectueusement le silence. Il y eut cette prophétie selon laquelle je devais en tirer trois et que nous formerions un quatête, finit par dire Roland. Peu importe qui l'a prononcé, peu importe ce qui s'est produit auparavant, je ne veux plus me préoccuper de ce vieux nœud, si je le peux. Il y avait trois portes. Derrière la deuxième se trouvait une femme qui est devenue la femme d'Eddie, même si à l'époque elle ne se faisait pas appeler Suzanne. Ainsi, Roland raconta-t-il à Callahan la partie de leur histoire qui concernait directement Susanna et ces femmes qui avaient existé avant elle. Il se concentra sur l'épisode du sauvetage de Jake et du gardien de la porte, sur la façon dont il l'avait ramené dans l'entre-deux-monde, racontant comment Susanna, ou peut-être était-ce Detta à ce moment-là, avait retenu le démon dans l'anneau de parole tandis qu'eux faisaient ce qu'ils avaient à faire. Il avait eu conscience des risques, et depuis, il était certain, même alors qu'ils étaient encore à bord de Blenlemono, qu'elle n'avait pas échappé au risque de tomber enceinte. Il en avait informé Eddie, et Eddie ne s'était pas montré aussi surpris qu'il l'aurait cru. Puis, c'est Jake qui était venu lui en parler, à lui, le gronder, pour tout dire. Et il avait accepté ses remontrances parce qu'il les trouvait méritées. Mais ce qu'aucun d'entre eux n'avait pleinement mesuré jusqu'à hier soir sous la véranda, c'est que Susanna elle-même savait, et peut-être depuis aussi longtemps que Roland. C'est seulement qu'elle s'était battue plus fort. « Alors, père, qu'en pensez-vous ? » ?»«
Vous avez dit que son mari était prêt à garder le secret, » répondit Callahan. « Et même Jake, qui y voit clair. »«
Oui, » dit Roland. « C'est vrai, il y voyait clair. Et quand il m'a demandé ce qu'il fallait faire, je lui ai donné un mauvais conseil. Je lui ai dit qu'il faudrait laisser le cas décider par lui-même, et pendant tout ce temps, je le tenais dans ma main, comme un oiseau piégé.
Les choses ont toujours l'air plus limpides quand on les regarde par-dessus son épaule, n'est-ce pas ?»«
Oui.
Hier soir, lui avez-vous dit qu'elle portait en son sein l'enfant d'un démon.
Elle sait qu'il n'est pas dédié.
Vous n'avez rien dit, donc. Et Mia. Vous lui avez parlé de Mia et de la salle de banquet du château ?
Oui, dit Roland. Je crois que ça l'a abattu, mais pas vraiment surprise. Depuis cet accident qui lui a fait perdre ses jambes, il y avait déjà cette autre femme, Detta. Ce n'était pas un accident, mais Roland n'était pas entré dans les détails au sujet de Jack Mort avec Callahan, ne voyant aucune raison de le faire.
Detta Walker s'est bien cachée de Detta Holmes. Eddie et Jake disent qu'elle est schizophrène.
Roland prononça ce mot exotique avec beaucoup de soin.
« Mais vous l'avez guérie, » fit Callahan. « Vous l'avez mise face à face avec les deux facettes de sa personnalité dans l'une de ses portes, n'est-ce pas ?»
Roland haussa les épaules. « On peut brûler des verrues en les enduisant d'argent, père. Mais chez quelqu'un qui est sujet aux verrues, elles reviendront. » La réaction de Callahan le surprit. Il rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Il rit si fort et si longtemps qu'il finit par sortir son mouchoir de la poche arrière de son pantalon et qu'il s'essuya les yeux.
« Roland, vous avez beau être rapide avec une arme et aussi courageux que Satan un soir de sabbat, mais vous n'êtes pas psychiatre. Comparez la schizophrénie à des verrues. Oh, oh mon Dieu !»«
Et pourtant Mia est réelle, père. » Je l'ai vu de mes yeux, pas en rêve, comme Jake, mais de mes yeux.
C'est exactement là que je veux en venir, répliqua Callahan. Mia n'est pas un aspect de la femme née sous le nom de Detta Susanna Holmes. C'est elle.
Ça fait une différence?
Je crois que oui. Mais il y a une chose que je peux vous dire avec certitude. Peu importe comment vous réglerez les choses au sein de votre confrérie, de votre quartette, il faut que cela reste un secret absolu pour les habitants de Calabrian Sturges. Aujourd'hui, tout se passe comme vous l'avez décidé. Mais si le bruit courait que la femme pistolero à peau brune porte sans doute l'enfant d'un démon, les Falcon vireraient de bord et s'entraînaient, Ebentuk en tête. Je sais que pour finir, vous déterminerez votre plan d'action en fonction des besoins de la Cala, de ce que vous considérerez comme les besoins de la Cala, mais vous ne pourrez pas vaincre les loups à vous quatre, sans aide, quelle que soit votre habileté avec ces calibres que vous portez. Il y a trop à combattre. »
Une réponse ne s'imposait pas. Callahan avait raison.
« Que craignez-vous le plus ?» demanda Callahan.
« La rupture du tête. » répondit Roland sans aucune hésitation.
« Vous voulez dire par là que Mia prenne le contrôle de ce corps qu'elle partage et qu'elle parte de son côté pour avoir cet enfant ?»«
Si ce genre de choses devait arriver au mauvais moment, ce serait regrettable, mais tout pourrait encore s'arranger, si Susanna revenait. Mais ce qu'elle porte en elle n'est rien d'autre que du poison avec un cœur qui bat. » Roland lança un regard sombre au religieux en noir. J'ai toutes les raisons de croire que son premier souci serait de massacrer la mère.
La rupture du tête, fit Callahan d'un air songeur. Non pas la mort de votre ami, mais la rupture du tête. Je me demande si vos amis savent quel genre d'homme vous êtes, Roland.
« Ils le savent, » répondit Roland, préférant clore le chapitre.
« Qu'attendez-vous de moi ?»«
D'abord une réponse à ma question. Il me paraît clair que Rosalita s'y connaît bien en remède. En saurait-elle assez pour faire passer le bébé avant le terme de la grossesse ? Et aurait-elle le cran de tenir bon face à ce qu'elle pourrait découvrir ? Il faudrait qu'ils soient tous présents, bien entendu, lui et Eddie et Jake aussi, même si cette perspective n'enchantait pas Roland. Parce que cette chose en elle avait sans doute déjà accéléré sa croissance, et même avant terme, elle risquait d'être dangereuse. Mais son terme est sans doute très proche, se dit-il. Je Je ne peux pas en être certain, pourtant je le sens. Sa réflexion s'interrompit brutalement lorsqu'il aperçut l'expression mêlée d'horreur, de dégoût et de colère montante de Callahan.
Rosalita ne fera jamais une chose pareille. Entendez-moi bien, elle préférerait mourir.
La perplexité de Roland se lut sur son visage.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est catholique.
Je ne comprends pas.
Callahan vit qu'en effet le pistolero ne comprenait pas, et le plus gros de sa colère tomba. Pourtant, Roland sentait qu'il en restait beaucoup pour lui, comme le nœud derrière la pointe de la flèche.
C'est d'avortement que vous parlez ?
Ah oui ?
Roland ! Roland !
Callahan baissa la tête, et lorsqu'il la releva, la colère semblait avoir disparu. Lui avait succédé une irréductible obstination que le pistolero avait déjà vue. Il savait qu'il ne pourrait pas plus la briser qu'il ne pourrait soulever une montagne à main nue.
Dans ma religion, on divise les péchés en deux catégories, les péchés véniels qui sont supportables du point de vue divin, et les péchés mortels qui ne le sont pas. L'avortement fait partie des péchés mortels, c'est un meurtre.
Père, nous parlons d'un démon, pas d'un être humain.
C'est vous qui le dites. C'est l'affaire de Dieu, pas la mienne.
Et si ça la tue, vous direz la même chose et vous vous en laverez les mains ? Roland n'avait jamais entendu parler de Ponce Pilate et Callahan le savait. Pourtant l'image le fit grimacer. Mais il répondit avec fermeté.
Vous qui vous inquiétez de la rupture du tête avant même de vous préoccuper de sa vie à elle, honte sur vous, honte!
L'objet de ma quête, de la quête de mon cas-tête, c'est la tour sombre, père. Ce n'est pas sauver ce monde dans lequel nous nous trouvons, ou même cet univers, mais tous les univers, tout ce qui existe.
« Je m'en moque !» dit Callahan. « Je m'en moque !»« Maintenant, écoutez-moi, Roland, fils de Stephen, car je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Vous m'écoutez ?»
Roland soupira. « Grand merci. » »«
Rosa ne fera pas avorter cette femme. » Il y a en ville des gens qui s'en chargeraient, je n'en doute pas, même en ce lieu où les enfants sont emmenés tous les 20 et quelques années par des monstres venus des ténèbres. Des arts répugnants tels que celui-là doivent se pratiquer encore, mais si vous allez trouver l'un d'entre eux, vous n'aurez plus à vous inquiéter des loups. Je soulèverai la population de Calabrian Sturgis contre vous avant même leur arrivée.
Roland le considéra d'un air incrédule. Même sachant que nous pourrons peut-être en sauver une centaine d'autres. Des enfants humains dont le premier souci en arrivant sur Terre ne serait pas de dévorer leur propre mère. Callahan semblait ne pas avoir entendu. Il était très pâle.
J'obtiendrai plus que ça, ne vous déplaise. Et même si ça ne vous plaît pas, je veux votre parole d'honneur que vous juriez sur le visage de votre père que vous ne suggérerez jamais à la femme de se faire avorter. »
Une pensée étrange traversa l'esprit de Roland. Maintenant que ce sujet avait été soulevé, qu'il leur avait sauté à la gorge comme un diable jaillissant de sa boîte, aux yeux de cet homme, Susanna n'était plus Susanna. Elle était devenue la femme. Puis il se dit, combien de monstres le père Callahan avait-il tué lui-même de ses propres mains? Comme cela lui arrivait dans les moments de tension extrême, le père de Roland s'adressa à lui. Cette situation n'est pas totalement désespérée, mais si tu décides de poursuivre dans cette voie, si tu dis à voix haute les pensées qui te traversent l'esprit, alors elle le sera.
« Je veux votre parole, Roland. »«
Ou alors, vous soulevez la ville contre nous. »«
Si fait. »«
Et si Susanna décide de se faire avorter elle-même? Les femmes le font parfois, et elle est très loin d'être idiote. Elle mesure les enjeux.
Mia, la vraie mère du bébé, l'en empêchera.
N'en soyez pas si sûr. Susanna Dean a un instinct de conservation très développé, et je crois son dévouement à notre quête plus fort encore. Callahan hésita. Il détourna le regard et serra les lèvres en une fine ligne blanche. Puis il fixa de nouveau le pistolero.
C'est vous qui l'en empêcherez, en tant que son Dean.
Et Roland se dit, je viens de me faire casteler.
Très bien.
Je lui dirai que nous avons parlé et je m'assurerai qu'elle comprendra bien la situation dans laquelle vous nous placez. Et je lui demanderai de ne pas en faire part à Heidi.
Pourquoi donc?
Parce qu'elle vous tuerait, mon père. Il vous tuerait pour vous être interposé.
Roland prit une petite revanche en voyant Callahan écarquiller les yeux. Il se rappela cependant qu'il ne devait faire naître en lui-même aucun sentiment qui aille à l'encontre de cet homme qui était ce qu'il était, tout simplement. Ne leur avait-il pas déjà parlé de ce piège qu'il portait en lui, partout où il allait?
Maintenant, écoutez-moi aussi attentivement que je vous ai écouté, parce que vous avez désormais une responsabilité envers chacun de nous, particulièrement envers la femme.
Callahan grimaça légèrement comme s'il avait été frappé, mais il acquiesça.
« Dites-moi ce que vous voulez. »«
Pour commencer, je veux que vous la surveilliez dès que vous en aurez l'occasion, comme un faucon. Je veux notamment que vous notiez quand elle met ses doigts ici. »
Roland se frotta le front juste au-dessus du sourcil gauche.
« Ou là, il descendit sur la tempe, et que vous écoutiez sa façon de parler. » Voyez si sa diction s'accélère ou si elle fait des gestes nerveux.
Pour illustrer ses propos, Roland porta vivement la main à sa tête, se gratta, puis la rabaissa tout aussi vivement. Il pencha la tête vers la droite et lança un regard à Callahan.
Vous voyez?
Oui, ce sont les signes de la présence de Mia.
Roland hocha la tête.
Je ne veux plus qu'elle se retrouve seule lorsqu'elle est Mia, dans la mesure du possible.
Je comprends, dit Callahan. Mais, Roland, il m'est difficile de croire qu'un nouveau-né, quel que puisse être la nature de son père. Chut, taisez-vous. Voulez-vous?
Et quand Callahan se fut exécuté, « ce que vous pensez ou ce que vous croyez m'importe peu. Vous avez déjà à vous occuper de vous-même et je vous souhaite bonne chance. Mais si Mia ou sa créature font du mal à Susanna, père, je vous tiendrai pour personnellement responsable de ses blessures et vous le paierez de ma main.
Vous comprenez ce que je dis ?»«
Oui, Roland. »
Callahan avait l'air à la fois confus et calme. C'était là une étrange combinaison.
Très bien.
Maintenant, voici l'autre chose que vous pouvez faire pour moi. Pour l'arrivée des loups, j'ai besoin de 6 falcons auxquels je pourrais faire totalement confiance. Je voudrais 3 hommes et 3 femmes.
Cela pose-t-il un problème si certains sont parents d'enfants menacés?
Non, mais pas tous. Et je ne veux aucune des dames susceptibles de lancer le plat. Sarah, Zalea, Margaret Eisenhart et Rosalita. Elles seront occupées ailleurs.
Pourquoi avez-vous besoin de ces 6 personnes?
Roland garda le silence. Callahan le fixa un petit moment.
Reuben Cavert, dit-il. Reuben n'a jamais oublié sa sœur ni l'amour qu'il avait pour elle. Diane Cavella, son épouse, ou bien préférez-vous qu'il n'y ait pas de couple?
Non, les couples ne posaient pas de problème. Roland fit son petit geste de la main, exhortant le père à poursuivre.
Gatab, des manies, je dirais. Les enfants le suivent comme s'il était le joueur de flûte d'Amel.
Je ne comprends pas.
Aucune importance. Il le suivrait au bout du monde, c'est tout ce qui compte.
Baqué Javier et sa femme.
Et que diriez-vous de votre garçon, Jake?
Les enfants de la ville le suivent déjà des yeux, et je soupçonne bon nombre des filles d'être amoureuses de lui.
Non, j'ai besoin de lui.
Oui, ou bien tu ne supportes pas qu'il soit hors de ta vue, se demanda Callahan. Mais il n'en dit rien. Il avait poussé Roland aux limites de la prudence, du moins pour aujourd'hui, au-delà même.
Et Andy? Les enfants l'adorent, lui aussi, et il le protégerait jusqu'à la mort.
Si fait. Des loups? Callahan eut l'air troublé. En fait, il pensait plutôt aux chats des roches, à eux et aux loups qui se déplaçaient à quatre pattes. Quant à ceux qui venaient de Tonnefoudre...
Non, trancha Roland, pas Andy. Pourquoi pas? C'est bien pour combattre les loups que vous voulez ces six personnes.
Pas Andy, répéta Roland. Ce n'était qu'une impression, mais ces impressions étaient sa version à lui du Shining.
Vous aurez le temps d'y réfléchir, père. Et nous réfléchirons aussi de notre côté. Oh, sortez en ville.
Si fait. Aujourd'hui et les quelques jours à venir.
Callahan eut un grand sourire. Vos amis et moi appellerait ça « faire de la lèche ». C'est la traduction d'une expression yiddish.
Si fait. Quelle tribu est-ce là?
Une tribu bien malheureuse. Ici, la lèche s'appelle « komala ». Ils emploient ce mot pour tout et n'importe quoi.
Callahan fut un peu surpris de mesurer à quel point il tenait à regagner la considération du pistolero. Il ressentait un peu de dégoût pour lui-même aussi.
Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance.
Roland hocha la tête. Callahan repartit en direction du presbytère où Rosalita avait déjà harnaché les chevaux au Boucali et commençait à s'impatienter en attendant Callahan afin qu'ils s'acquittent de leur devoir envers Dieu. À mi-chemin de la côte, Callahan se retourna.
« Je n'ai pas à rougir de mes croyances, » dit-il. « Mais si je vous rends la tâche plus compliquée ici, à la Cala, j'en suis désolé. « Votre homme Jésus m'a l'air d'un beau salopard en ce qui concerne les femmes, » dit Roland. « A-t-il jamais été marié ?»
Callahan eut du mal à réprimer un sourire.
Non, mais sa bonne amie était une putain.
Eh ben, fit Roland, c'est un début. 4. Roland vint s'appuyer sur la barrière. Il savait qu'il était temps de démarrer cette journée, mais il voulait laisser à Callahan une longueur d'avance. Il n'y avait pas plus d'explication rationnelle à ce désir qu'au refus d'enrôler Andy. Rien qu'une impression. Il était toujours là, se roulait une autre cigarette, quand Eddie descendit vers lui, sa chemise claquant au vent derrière lui et ses bottes à la main.
« Allez, Eddie !» lança Roland. « Allez, patron !»« Je t'ai vu parler avec Callahan. On aurait dit la petite maison dans la prairie. »
Roland haussa les épaules.
Laisse tomber. Roland, avec tous ces bouleversements de ces derniers temps, je n'ai pas eu l'occasion de te raconter l'histoire du grand-père, et c'est très important.
Susanna a élevé?
Ouais.
Elle fait sa toilette. Quant à Jake, il est en train d'engloutir une omelette géante.
Roland hocha la tête.
J'ai nourri les chevaux. J'ai qu'à les sceller pendant que tu me racontes ce que t'as dit le vieux bonhomme.
Oh, Oh, t'imagines pas que ça prendra aussi longtemps, fit Eddie. Et en effet, il arriva à l'essentiel, ce que le vieux lui avait chuchoté à l'oreille au moment où ils atteignaient la grange. Roland se tourna vers lui, oubliant les chevaux. Ses yeux lançaient des éclairs. Il posa les mains sur les épaules d'Eddie en une étreinte puissante, même à droite. « Oh, dis-moi ça !» Eddie ne s'en offusqua pas. « Il m'a dit de m'approcher tout près. Ce que j'ai fait. Il m'a dit qu'il ne l'avait raconté à personne d'autre que son fils, ce que je crois. Tian et Zalia savent qu'il est allé là-bas, mais ils ne savent pas ce qu'il a vu en retirant le masque de cette chose. Je ne crois même pas qu'il soit au courant que c'est Molly Larousse qui l'a tué. Et puis, il a murmuré, et Eddie répéta à Roland ce que le grand-père de Tian prétendait avoir vu. Le regard de Roland s'illumina d'une telle lueur de triomphe qu'elle en était effrayante. « Des chevaux gris !» s'écria-t-il. « Tous ces chevaux exactement de la même couleur, tu comprends maintenant, Eddie ?»« Tu comprends ?»« Ouais, » fit Eddie. Il eut un large rictus qui lui découvrit les dents. Pas particulièrement réconfortant comme rictus. Comme dirait la chanteuse de cabaret, « Je connais la chanson. » 5. Dans le langage courant, le terme qui a sans doute le plus de nuances de sens est « faire ». Le dictionnaire en offre en moyenne une trentaine de définitions, dont la première est « créer, engendrer, produire » et la dernière « arriver à, parvenir ». Dans les calasses du croissant des terres frontalières entre l'entre-deux-mondes et Tonnefoudre, la médaille d'or serait allée à Comala. Si le mot était recensé dans le dictionnaire, la première définition, à supposer qu'elle soit classée en commençant par celle le plus couramment employée, aurait été « variété de riz poussant à l'extrême-est du tout-monde ». La deuxième aurait été « relation sexuelle », la troisième « orgasme sexuel » comme dans « As-tu comme Allah ?» La réponse espérée étant dans ce cas, étant « si fait, grand merci, comme Allah, beaucoup, beaucoup ». Mouiller le comme Allah signifiait irriguer le riz en période de sécheresse, ou se masturber. Comme Allah est le commencement d'un grand repas de réjouissance, comme un banquet de famille. Pas le repas lui-même, vous intuitez, mais le moment où les convives se mettent à manger. D'un homme qui perd ses cheveux, comme c'était le cas de Garrett Strong cette saison-ci, on dira qu'il vient comme Allah. Mettre les animaux à la saillie se dira couvrir comme Allah. Les animaux châtrés sont le comme Allah sec, même si personne ne saura vous dire pourquoi. Une vierge sera une comme Allah verte, une femme qui a ses règles, une comme Allah rouge, et un vieil homme ne pouvant plus mettre le fer en forge portera le doux nom de, mille pardons, comme Allah mou. Se tenir en Comala veut dire se tenir ventre à terre, expression argotique signifiant partager des secrets. Les connotations sexuelles du terme sont évidentes, mais pourquoi ces arroyaux rocheux au nord de la ville s'appellent-ils les étires Comala? D'ailleurs, pourquoi une fourchette peut-elle être une Comala alors qu'une cuillère ou un couteau, non? Il n'y a pas de sans définition à ce mot, mais il doit bien y en avoir 70. Deux fois plus si on inclut les sens dérivés. L'un de ces sens, à classer sans doute parmi les 10 premiers, serait ce que le père Callahan appelait « faire de la lèche ». L'expression dans son intégralité donnerait quelque chose comme « venir Sturges Comala » ou « venir Bryn à Comala ». Le sens littéral serait « se tenir ventre à terre avec la communauté dans son ensemble ». Pendant les 5 jours qui suivirent, Roland et son cas-tête tentèrent de maintenir le processus mis en route par les habitants du monde de l'extérieur à l'épicerie générale Touk. Il fut lent à démarrer. Comment essayer d'allumer un feu avec du bois vert, dirait amèrement Susanna à l'issue du premier jour. Mais petit à petit, les Falcon se rallièrent à eux, ou se montrèrent du moins plus amicaux. Chaque soir, Roland et les Dean rentrait au presbytère du père. En fin d'après-midi ou en début de soirée, Jake retournait au ranch Rocking Bee. Andy avait pris l'habitude de le retrouver là où la route du Rand se séparait de la route de l'Est et de l'escorter jusqu'au bout. Chaque fois, il s'inclinait et disait gaiement « Bonsoir, sot. Voudriez-vous entendre votre horoscope ? On appelle cette époque de l'année la moisson chariou. Vous allez revoir un vieil ami, une jeune femme pense à vous chaleureusement, etc. » Jake avait demandé à Roland pourquoi il devait passer autant de temps avec Benny Slightman. « Tu te plains ? Tu ne l'aimes plus ?»« Je l'aime beaucoup, Roland, mais s'il y a quelque chose que je suis censé faire, à part sauter dans le foin, apprendre à ôter, à faire la pirouette ou organiser des concours de ricochet à la rivière, je pense qu'il serait temps que tu me fasses signe. »« Il n'y a rien d'autre, » répondit Roland. Puis, après réflexion, « Si !» N'oublie pas de bien dormir. Les garçons en pleine croissance ont besoin de sommeil.
Pourquoi je suis là-bas ?
Parce qu'il m'a paru bien que tu y sois, répondit Roland. Tout ce que je veux, c'est que tu ouvres l'œil et que tu me dises si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas ou que tu ne comprends pas.
De toute façon, gamin, tu ne nous vois pas assez pendant la journée, lança Heidi.
Et ils passèrent effectivement les 5 jours suivants ensemble, et ce furent de longues journées. La nouveauté que représenta le fait de monter les chevaux de Cy Oberholzer s'évanouit vite, ainsi que les plaintes de muscles douloureux et d'ampoules aux fesses. Au cours de l'une de leurs chevauchées, alors qu'ils approchaient de l'endroit où Andy avait pour habitude d'attendre, Roland demanda son ménagement à Susanna si elle avait songé à l'avortement comme un moyen de résoudre son problème.
« Eh bien, » répondit-elle en le regardant d'un air curieux, « je ne vais pas te dire que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit. »«
Oublie-la. Pas d'avortement. »« Tu as une raison particulière de dire ça ?»«
Le cas, » dit Roland.
« Caca !»
renchérit instantanément Eddie. C'était une vieille blague, pourtant elle les fit rire tous les trois, et Roland fut ravi de rire avec eux. Et c'est ainsi que le sujet fut abandonné. Roland avait du mal à le croire, pourtant il en fut satisfait. Le fait que Susanna fût si peu disposée à discuter de Mia et de l'arrivée du bébé le rendait très reconnaissant. Il supposait qu'il y avait des choses, un bon nombre, qu'elle aimait mieux ne pas savoir. Pourtant, elle n'avait jamais manqué de courage. Roland était persuadé que les questions auraient affleuré tôt ou tard, mais au bout de 5 jours passés à parcourir la ville en quatuor ou en quintette en comptant Otte qui chevauchait avec Jake, Roland commença à renvoyer Susanna chez les Jaffords dès midi afin qu'elle cessait au lancer de plat. Environ 8 jours après leur longue palabre sous la galerie du presbytère, celle qui s'était prolongée jusqu'à 4 heures du matin, Susanna les invita chez les Jafford pour constater ses progrès.
« C'est l'idée de Zalia, » dit-elle. « Je pense qu'elle voudrait savoir si j'ai réussi l'examen. »
Roland savait qu'il lui suffisait de demander à Susanna elle-même s'il voulait une réponse à cette question, mais il était curieux de la voir à l'œuvre. À leur arrivée, ils trouvèrent la famille entière réunie sous le porche arrière, accompagnée de plusieurs des voisins. Gerard Estrada et sa femme, Diego Adams, en lambière de cuir, et les Javier. Ils ressemblaient à des spectateurs d'un entraînement de poing. Zalman et Tia, les jumeaux crânés, se tenaient sur le côté, dévisageant toute la compagnie avec des yeux ronds. Il y avait aussi Andy, avec Aaron, le bébé endormi dans ses bras.
« Roland, si tu avais l'intention de garder tout ça secret, eh bien, devine quoi ?» fit Eddie.
Roland ne fut pas décontenancé, même s'il comprit que ses menaces contre les cow-boys, qui avaient vu Cy Eisenhart lancer le plat, avaient été totalement inutiles. Les gens de la campagne parlaient, c'était un fait. Que ce soit dans les terres frontalières ou dans les baronnies, les potins restaient le sport le plus pratiqué. Et au moins, se dit-il, ces têtes de nœuds iront raconter autour d'eux que Roland est un dur, un fort comme un lard, et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. C'est comme ça, dit-il. Les Falklands de la Cala savent depuis une éternité que les sœurs d'Oritza lancent le plat. S'ils savent que Susanna le lance aussi et qu'elle le lance bien, peut-être que c'est pas plus mal.
Jake ajouta, j'espère juste que... Enfin, qu'elle va pas tout gâcher.
Lorsqu'ils gravirent les marches, Roland, Eddie et Jake furent accueillis par des saluts respectueux. Andy apprit à Jake qu'une jeune fille se languissait de lui. Jake rougit et répondit qu'il aimerait autant ne pas être informé de ce genre de nouvelles si Andy n'y voyait pas d'inconvénient.
Comme vous voudrez, so.
Jake se retrouva en train d'examiner les mots et les chiffres tamponnés sur le torse de Andy comme un tatouage métallique et se demanda à nouveau s'il était réellement dans ce monde de cow-boys et de robots ou s'il s'agissait d'une espèce de rêve extrêmement vivant.
J'espère que ce bébé va se réveiller bientôt, ça oui, et qu'il va pleurer, parce que je connais plusieurs comptines qui pourront l'apaiser et la ferme.
Et plein de bandits de métal clinçant. Le tensa le grand-père, et après avoir imploré le pardon du vieil homme, de son ton compatissant et pas du tout désolé, Andy finit par s'exécuter. Messager, nombreuses autres fonctions. Se dit Jake. Est-ce que l'une de ses autres fonctions consiste à embêter le monde, Andy, ou bien je me trompe? Susanna était rentrée dans la maison avec Zalia. Lorsqu'elles en sortirent, Susanna portait non pas une pochette en roseau, mais deux. Elle pendait sur ses hanches au bout d'une bandoulière tissée. Il y avait aussi une autre bandoulière, constata Eddie, qui s'enroulait autour de sa taille et maintenait les poches bien ajustées. Comme la tache d'un étui.
Ça, c'est du harnais, grand merci, fit remarquer Diego Adams.
C'est Susanna qui l'a conçu, dit Zalia en voyant la jeune femme s'installer dans son fauteuil roulant. Elle appelle ça un crampon de débardeur.
Ce n'était pas un crampon de débardeur, Eddie le savait.
Pas tout à fait, mais on n'en était pas loin.
Il sentit un sourire admiratif lui monter aux lèvres, et vit le même sur le visage de Roland et sur celui de Jake.
Grand Dieu, même O.T. avait l'air de sourire.
Est-ce que ça servira à quelque chose? C'est tout ce que je me demande, fit Bucky Javier.
Qu'on puisse même poser une telle question ne faisait que confirmer aux yeux d'Eddie la différence entre les pistoleros et les Falcons de la Cala. Au premier regard, Eddie et ses compagnons avaient su avec certitude à quoi servait ce harnais et comment il fonctionnait. Javier, en revanche, était un petit fermier, par conséquent, il voyait le monde de manière très différente.
Vous avez besoin de nous, pensa Eddie à l'intention d'un petit groupe d'hommes debout sous le porche, les fermiers dans leurs culottes blanches sales, Adams en jambières de cuir et Bottillon taché de fumier.
« Bon sang, si vous saviez à quel point !»
Susanna roula jusque devant la galerie et replia ses moignons sous elle, ce qui donna presque l'impression qu'elle se tenait debout dans son fauteuil. Eddie savait à quel point cette posture était douloureuse pour elle, mais le visage de sa femme ne trahissait aucune gêne. Pendant ce temps, Roland examinait l'intérieur de ses poches. Elles contenaient quatre plats chacune, des instruments tout simples, sans ornementation, des plats d'entraînement. Zalia traversa la cour et alla jusqu'à la grange. Si Roland et Eddie avaient remarqué la couverture clouée dès leur arrivée, les autres ne la virent que lorsque Zalia la détacha. Dessinée à la craie sur les planches du bâtiment, apparut la silhouette d'un homme, ou d'une créature de forme humaine, un rictus figé sur le visage, et une forme qui suggérait une cape flottant dans son dos. Rien à voir avec le somptueux travail des jumeaux Tevry, mais les hommes sous le porche savaient reconnaître un loup quand ils en croisaient un. Les enfants les plus grands lâchèrent un « oh » à voix basse. Les Estrada et les Javier se mirent à applaudir,
mais sans se départir de leur air inquiet, comme des gens qui craindraient de faire appliquer le diable. Andy complimenta l'artiste. « Qui qu'elle soit, ajouta-t-il avec condescendance. » Et le grand-père lui répéta de fermer son clapet. Puis il cria que les loups qu'il avait vus étaient plus gros et pas qu'un peu. L'excitation rendait sa voix stridente. « Eh bien, je l'ai dessiné à l'échelle humaine, » dit Zalia. En fait, elle l'avait dessiné à l'échelle de Marie. Et si la chose en vrai se trouve faire une cible plus grosse, tant mieux pour nous. « Écoutez-moi, je vous prie. » La dernière phrase était plus incertaine. Presque une question. Roland acquiesça. « Grand merci. » Zalia lui lança un regard reconnaissant, puis s'éloigna de la forme sur le mur. Elle se tourna ensuite vers Suzanne. « Quand vous voudrez, jeune dame. » Pendant un moment, Susanna resta simplement immobile, à une cinquantaine de mètres de la grange. Elle avait les mains entre les seins, la droite recouvrant la gauche. Elle gardait la tête baissée. C'est Camille savait exactement ce qui défilait dans sa tête. Je vise avec mon œil, je tire avec mon esprit, je tue avec mon cœur. Et leurs cœurs à eux se tendirent vers elle, portés par le shining de Jake et l'amour d'Eddie, qui l'encourageait, lui souhaitait de réussir, partager son excitation. Roland observait avec un air féroce. Est-ce qu'une experte du plat en plus ferait pencher la balance de leur côté? Peut-être pas. Mais il était fait comme ça. Et elle aussi. Et c'est avec toute la force de sa volonté qu'il lui souhaita de viser juste. Elle releva la tête. Elle contempla la silhouette dessinée à la craie sur le mur de la grange, les mains toujours posées sur la poitrine. Puis, soudain, elle poussa un cri perçant, comme Roland l'avait entendu faire à Margaret Eisenhart dans la cour du Rocking Bee, et Roland sentit son cœur qui cognait s'envoler. En cet instant précis, il eut un souvenir très clair et superbe de David, son faucon, repliant ses ailes sur fond de ciel d'été et piquant droit sur sa proie comme une balle dotée d'yeux. « Rita !» Elle baissa les mains et elle devint floue. Seuls Roland, Eddie et Jake furent en mesure de suivre leurs mouvements lorsqu'elles se croisèrent à hauteur de sa taille, quand la main droite s'empara d'un plat dans la poche de gauche et la main gauche d'un plat dans la poche de droite. Cy Eisenhart avait lancé à hauteur d'épaule, sacrifiant le gain de temps pour gagner en force et en précision. Les bras de Susanna se croisèrent sous la cage thoracique, au-dessus des bras du fauteuil, les plats s'armant à hauteur de ses omoplates. Et ils s'envolèrent, s'entrecroisant en l'air une seconde, avant de se planter dans le bois avec un bruit mat. Les bras de Susanna se retrouvèrent tendus devant elle. Pendant un instant, elle eut l'air d'un impresario qui vient de faire entrer en scène le clou de la soirée. Puis elle les rabaissa et les croisa devant elle, saisissant deux nouveaux plats. Elle les lança, en saisit deux autres, et fit voler le troisième jeu. Les deux premiers tremblaient encore quand les deux derniers se plantèrent dans le mur, un en haut, un en bas. Un silence total écrasait la cour des Jafford. Pas même un oiseau ne cria. Les huit plats formaient une ligne parfaitement droite, reliant la tête à ce qui aurait été la taille de la créature. Ils étaient distants de 10 à 15 centimètres, alignés comme des boutons de chemise. Et elle n'avait pas mis plus de 3 secondes à envoyer les 8.
« Vous avez l'intention d'utiliser le plat contre les loups, c'est ça ?»
demanda Bucky Javier d'une voix curieusement essoufflée.
« C'est ça ?»
Rien n'a encore été décidé, répondit Roland. D'une voix à peine audible où perçait à la fois le choc et l'émerveillement, Dilly Estrada lança
« Si ça avait été un homme, croyez-moi, ça serait un tas de côtelettes. »
C'est le grand-père qui eut le mot de la fin, comme devraient sans doute toujours l'avoir les grands-pères.
« Mon salaud !»